Du sport au programme avec la Havaï Kinouiva, un fait divers aussi, on revient sur le tragique accident survenu à Rimatara, et puis on va à la presqu'île pour assister à l'inauguration d'une ferme solaire. Le journal de la mi-journée, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
On commence donc cette édition avec Duva, la première étape de la Havaï Kinoui 2024, c'est terminé en fin de matinée.
Le MAG Havaï Kinoui va à 2024 avec Olympian Sport, Apengo Energize et les bureaux de poste.
Oui, les équipages avaient 48 km à parcourir ce matin entre Wahine et Rayatea. Une étape remportée par les tenants du titre, le Team OPT, qui ont entamé cette édition donc de la plus belle des manières. Tout de suite, on retrouve sur place Alex de Vaha News. Bonjour Alex, en direct de Rayatea.
Bonjour Valdemar, bonjour à tous. Effectivement, comme tu l'as dit, le tenant du titre, le Team OPT, a tenu la dragée haute et puis surtout a répondu présent pour montrer sûrement que c'était pas un accident, leur victoire l'année dernière. Et donc, ils se sont adjugés cette première étape de la 31e édition de la Havaï Kinoui Vaha. Alors, on peut résumer cette étape surtout sur un choix de cap qui aura été quand même déterminant, hein, au niveau de la stratégie. Dès la sortie de passe de Falé, deux groupes se sont clairement séparés. Un groupe emmené par le team Wahine Shell EDT Hinaraurea Arueva, qui est parti donc sur la gauche en sortie de passe, c'est-à-dire vers Opoa. Et le deuxième groupe, avec uniquement trois pirogues, hein, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait le team OPT, il y avait Air Tahiti, voilà, et Environpol qui était dans leur sillage, eh bien eux ont fait le pari de descendre sur Taha plutôt que de suivre l'équipe au coquillage, de suivre Shell, et bien leur en a pris puisque c'est eux, hein, qui sont arrivés les premiers dans la passe à Rayatea, puisqu'il y a eu un fort courant qui descendait donc de Taha, et toutes les équipes qui avaient choisi l'option de partir à gauche ont dû affronter ce courant pendant plus longtemps que les équipes comme OPT et RTT. OPT s'adjuge donc cette première étape avec un temps de 3h18min22s, suivi de RTT en 3h19min48s, troisième position pour Shelva en 3h20min07. Alors, rien n'est joué, bien évidemment. Vous savez que Havaï Kinoui, c'est une course qui se joue sur trois journées, sur trois étapes. On l'a vu l'année dernière, tout peut arriver. Pour l'instant, le Team OPT a une avance de 1 minute 26 sur RTT et une avance de 1:45 sur Shell Vara.
Alors, on a donné ce podium. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu du reste du classement?
Ben, écoute, le reste du classement, c'est arrivé au compte-gouttes, hein, des équipes comme Team Wahine se sont très bien comportées, très bien classées. Enviropol également, ils sont dans les 10 avec Arue également, avec Paddling Connection. En fait, les éternels, si je peux dire, hein, les éternels de Havaï Kinoui Vaha ont répondu présent. Ce qui est intéressant aussi, c'est à noter très rapidement dans les catégories des vétérans hommes 40 ans, Hinaraurea conserve le maillot jaune en 3h40min08s, suivi de Taishen Paddle, très très belle course de Taishen Paddle, l'équipe chère à Kiki Dubois, qui arrive 3:44 après Hinaraurea, et Nunueva de Bora Bora, renforcée cette année par Manutea Owen, à plus de 5 minutes donc du leader. Voilà pour les vétérans 40 ans. En 50 ans, c'est Toatei qui l'emporte en 3h58min06 devant Matahare, le tenant du titre, hein, qui a fini à 3:44 de Toatei, et Filinape qui finit à 16:48. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette première étape de la 31e édition.
Voilà, merci Alex du Média Vaha News, donc notre consultant pour cette 31e édition. On te retrouve demain pour la deuxième étape. Elle est disputée dans le lagon entre Rayatea et Taha.
C'était le MAG Havaï Kinoui Vaha 2024 avec Olympian Sport, Up & Go Energize et les bureaux de poste.
Dans les îles toujours, mais cette fois-ci aux Australes, on revient sur un triste fait divers, Valdemar.
Oui, souvenez-vous, dimanche, l'alerte était donnée à Rimatara après le chavirement d'un bateau de pêche. L'un des occupants, un père de famille, était parvenu à regagner la plage, mais pas sa fille de 11 ans. Pendant trois jours, d'intenses recherches ont été menées, aussi bien avec les moyens de secours de la commune que ceux de l'État. La commune a finalement annoncé la découverte de son corps ce matin vers 9h15 aux alentours de la plage de Hamaru.
Retour à Tahiti. une ferme solaire a été inaugurée ce matin à la presqu'île.
Elle s'appelle Mahana Ohyupe. Elle se trouve à Taravao, juste au-dessus du lycée agricole. Elle est la plus grosse centrale photovoltaïque de Polynésie. Avec ses 24 000 panneaux, elle est elle-même près de 9 fois plus grosse que l'ancienne détentrice du record. C'était sur le toit d'un hypermarché de Papeete. Changement d'ambiance, cette installation se trouve en plein champ. Et Charlie René, vous êtes sur place à Taravao.
Et oui, vous l'avez dit, Valdemar, on se trouve en plein champ, en plein pâturage même, sur le grand domaine Teariki, un domaine qui a toujours été exploité pour l'élevage bovin, mais où on passait poussé ces trois dernières années un gigantesque champ de panneaux solaires, donc accompagné de près de 1500 batteries soigneusement rangées dans des conteneurs réfrigérés. Une centrale de plus de 10 mégawatts de puissance en crête qui est déjà raccordée au réseau et qui subit ces derniers jours des tests importants à la mise en service. Elle couvrira les besoins électriques de plus de 1500 foyers et pas seulement à la presqu'île, puisqu'elle est branchée sur la boucle sud de la steppe. Ça n'est pas la seule, juste à côté et sont faits les derniers réglages de la ferme de EDT. La filiale d'Engie en a une autre un peu plus haut sur le plateau et une grande installation de plus de 20 000 panneaux est là aussi en préparation du côté de Mataya. Une petite révolution donc sur le réseau puisque toutes ces fermes doivent être inaugurées d'ici décembre et cette révolution elle avait été lancée en 2020 par un appel d'offres du pays. Le gouvernement prépare actuellement un deuxième procédure de ce type, Valdemar.
Et cet appel d'offres du pays l'avait mis en avant dans sa notation le concept d'agro-énergie. Eh bien, les promoteurs de Mahana Ohyupe ont joué le jeu, Charlie.
Et oui, et même pleinement joué le jeu. Ce midi, le soleil tape à Taravao, mais une centaine de vaches et de veaux trouvent de l'ombre sous les panneaux. Ces derniers ont en effet été perchés à plus de 3 mètres de haut et suffisamment écartés pour laisser pousser le pâturage. Un pari agro-énergétique. Certains parlent d'agro-voltaïque ou d'agri-solaire, mais un combo, quoi qu'il arrive, nécessaire vu la rareté et surtout le prix du foncier au Fénois. D'ailleurs, Mana Solar, le projet du groupe Moux, a fait un pari en partie similaire avec des panneaux qui servent d'ombrière ou de à des productions de fruits et légumes. Seul EDT est resté sur des installations classiques, mais promet de laisser paître des moutons entre ces panneaux pour valoriser un peu plus le foncier, Valdemar.
Merci Charlie René qui était donc en direct de Taravao. On rappelle que les trois autres grandes fermes solaires de Tahiti construites par EDT et le groupe Moux, elles seront toutes lancées d'ici début décembre.
Une question désormais, connaissez-vous la cosmatopée ?
Eh bien, par analogie avec pharmacopée, elle désigne le recensement de l'usage des plantes dans la cosmétique. Et l'association Pacific Cosmetic Valley veut fédérer les cultivateurs, les chercheurs et les producteurs pour créer une filière autour des vertus des plantes polynésiennes. Une première ébauche avait déjà vu le jour en 2016 au sein du pôle d'innovation Tahiti Fa'ahotu, mais aujourd'hui, les planètes sont alignées. Schéma directeur de l'agriculture, stratégie d'innovation du pays et feuille de route du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Tout le monde veut mettre en valeur les plantes polynésiennes. D'autant que dans les Outre-mer, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion ont déjà chacune leur Cosmetic Valley. Autour du Fénois donc, et le 17 octobre, une convention cadre a été signée avec le pôle de compétitivité français Cosmetic Valley. Les fondatrices de la Pacific Cosmetic Valley locale visent la création d'une filière polynésienne d'exception. Elles ont déjà quelques pistes et lancent un appel pour en trouver d'autres dans le respect de la biodiversité, des savoirs traditionnels et de l'emploi local. Écoutez Lucie Hubert, docteur en pharmacie qui a travaillé chez Chanel et qui connaît donc les besoins de l'industrie du luxe.
Dans l'industrie notamment du luxe et du marché de l'exception, ils recherchent une traçabilité, une transparence, du biosourcing et une économie circulaire si possible aussi, en valorisant les déchets. La Polynésie française, elle a vraiment quelque chose à revendiquer. C'est un territoire d'exception en termes de caractéristiques biochimiques de nos plantes. Donc aujourd'hui, l'enjeu aussi de la Pacific Cosmetic Valley, c'est vraiment de réinstaurer la vérité auprès de nos consommateurs en leur prouvant qu'en fait, les produits d'exception, ils viennent d'ici et de nulle part ailleurs.
Et à noter que les 19 et 20 novembre, à l'Université de la Polynésie, aura lieu une première rencontre intitulée Atelier Cosmétopée du Pacifique Sud, avec la participation de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna. L'occasion de créer un réseau régional et de rédiger une première feuille de route commune.
Un peu de culture maintenant, Valdemar, avec de la danse.
Oui, puisque Tefare Tahuiti Nui a dévoilé le programme du Hurata Peru. La 18e édition du festival de danse regroupe cette année 25 formations locales, 12 formations étrangères. Elle aura lieu du 27 novembre au 7 décembre.
Et on revient au sport pour terminer avec du football.
Et l'AS Dragon qui connaît son adversaire pour le 7e tour de la Coupe de France. Le club de Papeete qui avait obtenu son ticket pour la compétition nationale en remportant la Coupe de Polynésie, eh bien il recevra l'US Avranches le 16 ou le 17 novembre. Il s'agit d'une équipe de niveau semi-professionnel qui évolue en 4e division nationale. Un joli défi à venir donc pour les joueurs de Dragon qui avaient d'ailleurs déjà rencontré Avranches en 2016 sur cette même Coupe de France. Ils avaient alors perdu 9-0. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous. toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve à 16h pour un prochain point avec l'actualité locale. Et puis bien sûr, on suivra la Viking Week tout au long de cette semaine.
Merci beaucoup Valdemar. On passe à la météo sur